faire une annonce sur l'émission avant le message.
Bonjour à tous. Je vais appeler Grace pour me rejoindre. Je pense qu'elle va, elle va présenter la première partie de l'annonce sur la mission. Tu vas prendre le micro là.
Bonsoir ou bonjour, je suis mêlée, hein? Gloire à Jésus. Bon matin à tout le monde. Donc, on va juste prendre un temps là tout de suite, aussi simplement que possible. On va se lever et on va élever une prière pour toutes les missions. Je sais que chacun de nous connaît au moins un missionnaire. Amen. Chacun de nous. Donc, tu vas penser à celui-là et tu vas élever la voix et prier pour la force, pour la provision et pour l'audace dans ce à quoi Dieu l'a appelé, nous prions. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ceux qui ont répondu oui. Seigneur, beaucoup, le terrain est large, tu as besoin d'ouvriers. Et certains ont répondu oui, ont été prêts à se sacrifier, à te donner leur vie. Seigneur, je prie donc que tu les bénisses. Seigneur, que tu les gardes dans le creux de ta main. Seigneur, que tu leur donnes encore plus d'audace. Seigneur, de hardiesse, que la provision soit au rendez-vous. Je te prie de veiller sur leurs biens. Tu as dit dans ta parole que ceux qui laisseront père, mère et enfants pour te suivre, Seigneur, tu le leur rendras sur terre et dans les cieux. Seigneur, je prie donc que tu pourvoies et que tu sois avec chaque membre de leur famille. Seigneur, que ceux qui sont reculés auprès de nous, Seigneur, tu n'es pas un Dieu de distance, tu es un Dieu présent, proche de nous. Tu es Emmanuel. Je te prie donc de bénir et d'encadrer et de maintenir dans la paix chacun de tes missionnaires ce matin pour la gloire de ton nom. Amen.
Merci, Grâce. La deuxième annonce qui va concerner la mission ce matin, c'est Opération Christmas Child, qui est officiellement lancée ce matin pour l'année 2022 au Carrefour des Nations. Pour ceux qui ne connaissent pas Opération Christmas Child, c'est une opération de Samaritan Purse qui existe depuis plus d'une dizaine d'années déjà, plus de 20 ans je crois, et qui a distribué à ce jour plus de 180 millions de boîtes dans le monde. Opération Christmas Child, c'est une opération qui est spécifique aux enfants. Et je vais vous raconter ce matin trois histoires qui vont vous permettre de comprendre comment fonctionne Opération Christmas Child. Opération Christmas Child, c'est une opération qui est faite d'abord pour prêcher l'évangile aux enfants. C'est un moyen de connecter avec les enfants. Donc cette connexion peut se faire soit one-one, c'est-à-dire que c'est un moyen d'approcher un enfant. Dans l'évangélisation. On va commencer par ces jeunes bergers. Ces jeunes bergers, nous sommes en Asie centrale. Donc, ces jeunes bergers, en Asie centrale, les enfants, ils travaillent très tôt. Donc, on va continuer à voir le déroulé des photos. Et c'est deux jeunes garçons de 5 et 7 ans qui ont la lourde responsabilité de garder le troupeau de leur famille. Ils travaillent déjà à cet âge-là. Et des missionnaires passaient par là. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient des boîtes dans leur voiture. Ils se sont arrêtés. Et ce sont ces missionnaires qu'on voit sur la photo. Et ils leur ont donné des boîtes. Et après leur donner des boîtes, ils leur ont donné, vous allez voir après, une brochure. Cette brochure, c'est la brochure du grand voyage. Le grand voyage, c'est une brochure qui est spécifiquement faite pour prêcher l'évangile aux enfants et aux adolescents. Ça accompagne les boîtes cadeaux. Donc, ils ont pu prêcher l'évangile aux enfants, ils ont pu leur parler de Jésus, et de temps en temps, quand ils pensent dans la région, ils prennent des nouvelles. Et nous avons aussi cette histoire, aussi en Asie centrale, c'était un jeune garçon qui vendait au bord de la route, et un missionnaire qui rentrait, après une opération, s'est rendu compte qu'il avait encore une boîte dans sa voiture, donc il s'est arrêté. Et il a donné à ce jeune garçon la boîte, il lui a prêché l'évangile, et le jeune garçon était tout heureux, il a accepté Jésus ce jour-là, tout content, il est rentré chez lui. Et quand le missionnaire est passé 2 semaines après dans la même région, il voulait voir le petit garçon, mais il ne l'a plus vu au bordure de route. Donc il s'est arrêté, et il a voulu savoir où était le petit garçon, et on lui a dit en fait que le petit garçon était décédé, parce qu'au même endroit où il avait prêché l'évangile, en fait, une semaine après, une voiture l'avait renversé. Et donc, le missionnaire a été vraiment touché parce que ce jeune garçon, il était tellement heureux d'être chrétien. Donc, le missionnaire, il a voulu rencontrer la famille et il a rencontré la famille de ce jeune garçon. Et en fait, ils ont été touchés déjà de le voir parce que c'était un étranger. Et puis, ils lui ont dit, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que tu lui as dit? Parce que le jour où il est rentré avec la boîte, il était tellement heureux et puis il était tellement content tous les matins. Nous, on veut savoir qu'est-ce que tu lui as dit? Et il lui a dit, moi, je lui ai parlé de Jésus. Donc, il leur a prêché l'évangile et toute la famille s'est convertie. Donc, la troisième histoire que je vais vous raconter, c'est celle du peuple Imba. Nous sommes en Abibi. Le peuple Imba, c'était un peuple qui, jusqu'à quelques dizaines d'années, était rangé dans les peuples non atteints ou très difficilement atteints par l'évangile parce qu'ils sont dans un endroit très reculé. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Et ce n'est pas évident de vivre dans ces conditions-là. Donc, et c'est un peuple qui était plus ou moins fermé à l'évangile. Donc, ce qui s'est passé, c'est que des missionnaires ont organisé une distribution de boîtes cadeaux pour des enfants. Et puis, ils ont prêché l'évangile aux enfants. Et certains enfants ont accepté le Seigneur. Donc, ils ont commencé le programme du grand voyage, ce que je vous ai dit, The Great Journey. Ils ont commencé le programme du grand voyage et les parents, les mamans ont été intéressés par les changements qu'elles voyaient chez les enfants et elles ont commencé à se joindre aux petites réunions qui étaient faites. Là, on ne les voit pas bien, mais c'est des enfants à qui on présente l'évangile. Et le missionnaire allait demander au chef de village, est-ce que tu peux me donner un endroit pour qu'on puisse se réunir? Et le chef de village leur a donné un arbre, parce que c'est comme ça que ça se passe chez les Imba. Les réunions se font sous un arbre. Et le chef de village a accordé un arbre. Et aujourd'hui, il y a une église dans un village où l'évangile n'était pas prêché. Il y a une église de 80 personnes. Et ce qui a pu être fait, c'est qu'ils ont pu faire des MP3 solaires qui fonctionnent avec le soleil. Et ils ont mis les évangiles à l'oral parce que c'est un peuple de l'oralité. Et donc, les gens peuvent écouter l'évangile en Imba aujourd'hui. Et c'est une église qui est en croissance dans cette communauté. Donc, on voit que les boîtes de Samaritan Purse, c'est une petite boîte que vous faites, mais c'est une opportunité que vous donnez à un enfant d'écouter l'évangile et parfois même à l'évangile. Là, c'est l'église que vous voyez sous l'arbre. Et même à l'évangile de pénétrer dans une communauté et de s'installer dans une communauté. Donc, il y a 3 façons de donner. Soit vous faites une boîte. Les boîtes sont disponibles à l'arrière. Vous avez toutes les instructions. Soit vous donnez l'argent pour le transport des boîtes, parce que ces boîtes, elles partent du Canada. Le Canada ravitaille une partie de l'Amérique du Nord et une partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a des frais de maintenance. Parce que le but de Samaritan Purse, c'est que comme ces boîtes vont dans des pays pauvres, le but de Samaritan Purse, c'est de payer tous les frais. Et qu'une fois arrivés là-bas, les missionnaires, ils aient juste à récupérer les boîtes sans rien payer. Donc, c'est Samaritan Purse qui prend en charge tous les frais de transport, de logistique, de douane et tout ce qu'il y a. Donc, vous avez la possibilité de participer au transport de ces boîtes, soit en donnant à l'arrière, selon les modes, soit en mettant l'argent dans une enveloppe, soit en donnant par guichet Interact et en précisant à chaque fois que c'est pour Opération Christmas Child. L'année dernière, nous avons collecté plus de 800 dollars. Et c'était en 2-3 semaines, et je pense que Dieu peut faire beaucoup plus cette année. L'année dernière, nous avions récolté 28 boîtes, et cette année, nous commençons l'opération avec plus de la moitié, parce que nous sommes déjà à 16 boîtes. Nous sommes à 16 boîtes, pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, on a fait une opération ici où on a vendu des affaires, ça nous a permis de faire 6 boîtes. Nous avons des frères qui ont donné de l'argent pendant l'année pour faire des boîtes. Et nous avons une personne qui a donné ses boîtes en retard l'année dernière. Elle a donné 3 boîtes en retard. Ben, le centre était fermé, donc ces 3 boîtes sont revenues cette année avec son argent qui est toujours dans les boîtes. Donc, nous commençons cette année avec 16 boîtes, alors que l'année dernière, nous avions fait au total 28 boîtes. Donc, moi, je pense qu'on va dépasser les 50 boîtes et je pense que cette année va être beaucoup plus glorieuse. Donc, je vous invite à participer à votre niveau. Et la troisième manière de faire, c'est vous pouvez vous dire, moi, je n'ai pas le temps de magasiner et puis je trouvais des items pour 2-4 ans, j'ai plus d'enfants et puis je n'ai pas d'idée. Mais on vous donne aussi la possibilité de donner 20 dollars pour faire une boîte. Mais les 20 dollars que vous donnez, vous ne pourrez pas avoir de reçu d'impôt dessus parce que c'est comme l'argent qu'on dépense. Mais l'argent que vous allez donner à l'église va faire partie de votre reçu d'impôt de l'année prochaine. C'est bon? C'est correct? Nous allons passer au message. Moi, quand je parle de Samaritan Purse, je les ai distribués quand j'étais en Afrique. Et je vous assure que le sourire d'un enfant qui ouvre une boîte, un enfant parfois qui n'a rien ou qui pour la première fois a un cadeau, je vous assure que c'est, ça ne s'explique pas. Vous ne pouvez pas y décrire ce que c'est un enfant qui a une peluche pour la première fois de sa vie. Là. Vous pouvez pas, on ne peut pas vous expliquer ça. Et c'est pour ça que moi, je l'ai fait. Je l'ai fait à l'année. Je suis leader de projet à l'année. Parce que je sais l'effet de ces boîtes. Je sais la différence que ça fait. Ça ne va pas changer leur vie. Oui, c'est des items, c'est des petits cadeaux, c'est des peluches, mais ça marque la vie d'un enfant que des étrangers aient pris le temps de faire ça pour lui. Et je vous invite vraiment à participer. La Bible dit, Jésus a dit de laisser venir à moi des petits-enfants. Et la Bible dit que tout ce qu'on fait, même pour le plus petit d'entre nous, Dieu le connaît. Et Dieu ne l'oublie pas. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Seigneur, tu es au contrôle de nos vies ce matin. Seigneur, tu calmes nos cœurs ce matin. Tu calmes nos inquiétudes ce matin. Tu calmes nos peurs ce matin. Seigneur, tu es au contrôle de toutes les situations que nous traversons, même quand nous ne les comprenons pas. La Bible dit que tu as tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Alors même quand le méchant nous poursuit, nous savons que tu es au contrôle. Seigneur, peu importe les tempêtes, peu importe le vent, nous disons que tu es au contrôle de nos vies parce que tu es le maître du monde et parce qu'il n'y a aucune puissance au-dessus de toi. Nous te bénissons ce matin, nous te louons, nous t'adorons, nous t'honorons pour qui tu es, parce que ce que nous vivons ne change pas qui tu es. Père, nous sommes réunis ce matin pour te louer, pour t'adorer. Nous voulons expérimenter ta présence et ton amour. Durant ce temps de partage de ta parole, ce que nous voulons, c'est toi, et non une connaissance humaine ou un art oratoire. De Timothée 3,16 déclare que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Saint-Esprit, comme l'a dit Jésus dans Jean 14, verset 26, enseigne-nous toutes choses et que toute chair se taise au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le thème de la transformation permanente. De Corinthiens, au verset, chapitre 3, au verset 18, déclare « Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. » Donc nous sommes tous dans un processus de changement permanent. On n'a pas de situation statique dans la vie. On avance ou on recule. Mais quand on parle de transformation, ça peut être aussi une transformation dans le mauvais sens. Et il y a des événements dans la vie qui ont cette capacité, soit de vous transformer en une meilleure version de vous-même, soit de vous transformer en une pire version de vous-même. Et parmi ces événements qui ont la capacité de faire basculer nos vies dans un sens ou dans un autre, il y a l'échec et le rejet. Ces deux choses, quand on les traverse, vont soit vous faire progresser, soit vous faire reculer. Ça va soit faire sortir le meilleur de vous, ça va faire sortir le pire de vous. Et donc, ce matin, nous allons voir la place de l'échec et du rejet dans le processus de transformation permanente. Nous allons commencer par l'échec. C'est jamais facile de vivre un échec. On a fait tout ce qu'on pouvait, on s'est battu, on a travaillé fort, on a travaillé dur, on n'a pas dormi des nuits, on a prié, on a jeûné. Et puis à la fin, ça ne marche pas. Ou ça ne marche pas comme on s'y attendait. Et nos résultats, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a vécu ça, c'est Caïn, le premier fils d'Adam et Ève. Nous sommes dans Genèse 4, au verset 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, d'autres versions disent qu'il fut très en colère, et il arbora un air sombre. Rien dans la Bible ne dit que Caïn a fait des choses avec négligence. En fait, rien dans la Bible ne dit que Caïn, quand il a fait son offrande, il a mal fait ou il a pris les fruits pourris de la terre. Ce n'est pas dit. Donc, on ne peut pas présupposer que Caïn ait fait preuve de négligence. Ce qu'on nous dit, c'est que l'Éternel n'a pas agréé son offrande. Donc, vous imaginez Caïn, c'est un cultivateur, il travaille dur la terre. Il est tout content d'offrir le fruit de son travail à Dieu. Il prend les meilleurs fruits sûrement. Il les nettoie. Il fait son autel parce que ce n'était pas comme ici. On vient, on met d'autres argent. Il fallait faire tout un autel. Donc, il fallait réunir des pierres. Il fallait mettre du bois. C'est du temps que vous prenez pour faire tout ça. Donc, Caïn, il a fait tout ça. Il s'est dépensé. Et puis, à la fin, Dieu arrive et puis Dieu lui dit, « Non, ça, je n'accepte pas. » Et il a très, très mal pris. Et le pire pour lui, c'est que son frère cadet, on sait que s'il y a quelque chose qui énerve les gens, c'est quand votre petit frère réussit, là, vous avez échoué. Il n'y a rien de pire que d'avoir des problèmes à l'école et d'avoir un petit frère qui est premier de la classe. C'est une des expériences les plus douloureuses de la vie. Et donc, vous imaginez Caïn, non seulement Dieu rejette son offrande, mais pire, il agrée l'offrande de son petit frère. OK. Et dans Genèse 4, la Bible ne nous dit pas vraiment pourquoi Dieu refuse l'offrande. Mais dans Genèse 4, au verset 6, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Donc, on peut interpréter qu'il y avait quelque chose de pas net dans la vie de Caïn. Il y avait quelque chose que Dieu voulait régler avec Caïn. Et que c'est pour ça que Dieu a refusé l'offrande en lui disant, « Tu as quelque chose à faire et je veux que tu fasses ça avant que je prenne ton offrande. » Mais Caïn, lui, il était tellement enragé par l'échec, il était tellement énervé qu'il ne sait pas occupé de ce que Dieu lui a dit. Parce que ce que Dieu lui disait, c'est « Je n'ai pas refusé toutes les offrandes de ta vie. J'ai refusé cette offrande-là parce que je veux que tu fasses quelque chose. Tu as quelque chose à faire. » Mais Caïn, lui, il était dans sa rage d'avoir échoué. Et donc, il n'a pas écouté. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous sommes à Genèse 4, verset 8. Cependant, Caïn dit à Abel, à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le simple rejet d'une offrande a entraîné Caïn dans une spirale d'action. La colère de l'échec, l'énervement de l'échec a fait en sorte que Caïn va s'en prendre à Abel, mais Abel n'y était pour rien. Le problème était entre Dieu et Caïn. C'est Dieu qui a rejeté l'offrande de Caïn. Abel lui était pour rien. Abel, il a pris sa brebis, il a fait son offrande, elle a été agréée. Ce n'est pas sa faute, il a été rejeté. Mais il va s'en prendre à Abel. Et plus tard dans la Bible, on a les mecs. Les mecs, c'est un descendant de Caïn qui, pour moi, va un peu expliquer ce que Caïn a fait. Nous sommes dans Genèse, chapitre 4, nous sommes au verset 23. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tila, écoutez-moi, femmes de Lémec, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure. » Caïn a été tué. Abel a été tué parce que Caïn était blessé par son échec. J'ai tué un homme pour ma blessure. Il y a une telle disproportion entre la blessure et le meurtre. Et la plupart du temps, la colère va vous faire faire des choses qui sont complètement démesurées par rapport à ce qui a provoqué la colère. C'est l'un des pièges de la colère. Vous allez dire des paroles tellement disproportionnées par rapport à ce qui s'est passé que vous-même, quand vous allez réfléchir après, vous allez vous dire « qu'est-ce qui m'a pris de dire ça ?» Et vous savez, les prisons sont pleines de gens qui ont été poussés par la colère à faire des choses. Ils ont tué quelqu'un, ils étaient énervés, ils ont tué quelqu'un. Ils ont donné un coup à quelqu'un sans l'intention de le tuer. La personne est tombée sur la tête, elle est morte parce qu'il était trop énervé. L'échec, c'est quelque chose qui va vous entraîner, si vous ne faites pas attention, si vous ne le gérez pas, ça va vous entraîner comme Caïn dans une spirale. Et on va voir que Caïn va expérimenter les amères conséquences de la colère. Dieu lui disait, j'ai refusé ton offrande parce qu'il y a quelque chose entre toi et moi qu'on doit régler. Mais lui, il n'était plus là. Il était tellement en colère. Comment ça? Comment ça? Et puis cet idiot d'Abel en plus, son offrande, il était pris là-dedans. Tout ce que Dieu pouvait lui dire là, Dieu ne pouvait plus l'atteindre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué Abel. Est-ce que ça a réglé ses problèmes? Non. Genèse 4, verset 9. Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit. Ça veut dire, les autres offrandes, oublie-les. 2. Chasser loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. 2. Tout ce que tu as planté, oublie-le. 3. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources, même lorsque tu iras faire d'autres champs. Ça ne marchera plus comme avant. 4. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Pour une offrande refusée, toute ta vie est gâchée. Parce que tu étais tellement en colère, parce que tu as échoué. Tu étais tellement énervé d'avoir échoué. Tu t'es condamné à une errance perpétuelle, loin de ta famille, loin de ta terre natale, loin de Dieu. L'une des conséquences de l'échec, c'est que si vous ne faites pas attention, l'échec va vous faire prendre des décisions que vous allez regretter. Moi, je connais des gens qui ont quitté leur emploi parce qu'ils n'ont pas eu la promotion dont ils voulaient. La promotion plutôt qu'ils voulaient. Ils ont démissionné, comme ça. Des années après, ils n'ont jamais retrouvé un emploi au niveau de celui qu'ils ont laissé. Moi, je connais des gens qui ont quitté l'église parce qu'on ne les a pas nommés diacres. Parce qu'ils estimaient qu'ils travaillaient fort. Ils sont toujours disponibles. Ils sont là tôt. C'est eux qui rangent le matériel de l'église. C'est eux qui font ça, c'est eux qui font ça. Et on cherche un nouveau responsable de groupe. On met le gars qui est toujours en retard. Je connais des gens qui se sont mariés parce que la personne qu'ils aimaient a épousé une autre personne. Dans la première personne qui a dit « je t'aime », ils y sont allés, « je vais te prouver, je vais te montrer que moi aussi on peut m'aimer, moi aussi je peux porter la robe blanche, moi aussi je peux aller à la mairie. » Des gens qui ont abandonné leurs études parce qu'ils ont coulé un cours. Moi, je ne peux pas couler un cours. Et il y a des gens que l'échec a entraîné dans une spirale. Simplement parce qu'ils ne se sont pas assis pour se dire, OK, on va tous vivre des échecs à un moment ou à un autre de notre vie. Trompez pas là-dessus. Ça n'existe pas. Celui qui réussit tout, dans tous les domaines, et heureusement pour nous, ça n'existe pas. Même Jésus de Nazareth, un jour a fait une prière que Dieu n'a pas exaucée. Gethsémané. Dieu n'a pas exaucé. La prière de Jésus, c'était quoi? Si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Elle s'est éloignée. Donc même Jésus a connu l'échec. Donc si lui, le Fils unique, chéri, a connu l'échec, nous autres là vraiment, ce n'est pas si, c'est quand. Tous, ici, un jour ou un autre, dans un domaine ou un autre, on va connaître l'échec. Et on a intérêt à apprendre à gérer les échecs. Et on va apprendre de David comment on gère un échec. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 1. C'est lorsque le roi David a voulu déplacer l'Arche de l'Alliance pour la première fois. David rassembla encore toute l'élite d'Israël qui comptait 30 000 hommes. Puis avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Baal-Juda pour faire monter de là l'Arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le maître de l'univers qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison qui se trouve sur la colline. Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achijo devant. David et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel toutes sortes d'instruments en bois de cyprès, de la harpe, du luth, du tambourin, du sistre et des cymbales. Waouh ! 30 000 hommes d'élite, toute la population. En fait, on danse. David a mis les grands moyens. Le résultat, 2 Samuel 6. Nous sommes au verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de battage de Nacon, Uzza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de l'Éternel, près de l'arche de Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uzza. Mais les autres versions disent David fut irrité. David fut énervé. Seigneur, j'ai fait tout ça pour t'honorer. 30 000 hommes, tous les habitants de Juda, on te loue, on te chante. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu tues quelqu'un? On se met sur la route, on chante des louanges en ton honneur. Je mobilise l'élite d'Israël, 30 000. Et tu me fais ça? Est mort. Exactement comme Caïn. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand on arrive au verset 12 du même chapitre de Samuel 6, on va dire au roi David, l'Éternel a béni la famille d'Obed-Edom parce qu'une fois que Uzza est mort, il a juste laissé l'arche où il pouvait et puis il est rentré chez lui. L'Éternel a béni la famille d'Obed-Edom, donc il a laissé dans la famille d'Obed-Edom en disant « Cette arche, elle n'arrive pas chez moi. » Et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. David se mit alors en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la ville de David au milieu des réjouissances. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre David qui est énervé parce que Uzza est mort et David qui redanse de joie en allant de nouveau chercher cette arche, la Bible ne nous dit pas ce qui s'est passé. Mais si vous lisez plus en détail, vous allez voir qu'il y a un changement par rapport à la première tentative. Le changement, c'est que dans la première tentative, on a mis l'arche de Dieu sur un char neuf qui était tiré par des bœufs. C'est les bœufs qui ont posé problème. Mais dans la deuxième tentative, dans 2 Samuel 6 au verset 13, « Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. » Dans la deuxième tentative, l'arche est portée par des hommes. Et on ne le dit pas, mais apparemment, après l'échec, David s'est assis et puis il a fouillé. Pourquoi Dieu s'est fâché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et quand vous lisez le livre de Nombre, qui fixe les conditions dans lesquelles l'arche de l'Alliance doit être déplacée, vous vous rendez compte que la grande cérémonie de David était une violation flagrante de la loi de Dieu. C'était une violation de la parole de Dieu sur la manière de déplacer l'arche. Nous sommes dans Nombre 1, au verset 50. « Confie aux Lévites la responsabilité du tabernacle, du témoignage, de tous ses ustensiles et de tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Si quelqu'un d'autre s'en approche, il sera puni de mort. » Uzza, nulle part dans la Bible, on dit qu'il était Lévite. Plus précis encore, Nombre 3 au verset 30. Le chef de famille pour le clan des Kéatites était Élitsaphan, fils d'Uziel. Ils étaient responsables de l'arche, de la table, du chandelier, des autels, des ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service, du voile et de tout ce qui en dépend. Donc même parmi les Lévites, il fallait être un Kéatite pour s'approcher de l'arche. Mais même les Kéatites avaient des restrictions. Nombre 4, verset 15. Une fois qu'Aaron et ses fils auront fini de recouvrir le sanctuaire et tous ses ustensiles, les descendants de Kéat viendront pour les porter au moment du départ du camp. Cependant, ils ne toucheront pas les choses saintes, sinon ils mourraient. Ça veut dire que même les Kéatites n'avaient pas le droit de toucher à l'arche. Pour qu'ils touchent à l'arche, il fallait qu'ils attendent que les descendants d'Aaron, les prêtres, aient emballé l'arche. C'est pour ça qu'Uzza est mort. Parce que non seulement Uzza n'est pas lévite, il n'est pas kéatite, il n'est pas prêtre. Comment est-ce qu'on sait qu'Uzza n'est pas prêtre? Parce que si vous allez dans 2 Samuel au chapitre 8, au verset 17, on vous dit que les deux prêtres à l'époque de David, c'était Tsadok et Abimélec. Donc, un, l'arche n'aurait jamais dû se trouver sur un chariot parce qu'elle devait être portée et Uzza n'aurait jamais dû toucher l'arche. C'est pour ça qu'Uzza est mort. Donc, l'échec de David a été causé par la violation de la parole de Dieu. Il a voulu faire une grande cérémonie, oui, mais il aurait dû demander au prêtre comment est-ce que Dieu a prévu qu'on transporte l'arche? Souvent, nos échecs, on pense que parce qu'on a une bonne motivation, on veut bien faire les choses, ça veut dire que les choses sont bien. Non. C'est pas parce que vous avez une bonne motivation que ce que vous faites est correct. C'est pas parce que vous avez une bonne motivation que ce que vous faites est bien. David avait une bonne motivation. Il voulait honorer Dieu. Il voulait rendre gloire à Dieu. Il voulait installer l'arche dans un lieu qui en vaut la peine, oui. Mais il y avait une manière de transporter l'arche. Donc, David s'est mis en colère, mais la force qu'il a eue, c'est après de se dire, qu'est-ce que j'ai fait qui a cloché? Donc, quand on échoue, au lieu de s'énerver, de prendre des décisions qui vont nous auto-détruire comme Caïn, il faut qu'on se remette en cause. Qu'est-ce que j'ai fait de croche? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? À quoi est-ce que je n'ai pas fait attention? Parce que vous savez, c'est facile hein, d'accuser Abel. C'est à cause d'Abel. Si Abel n'était pas vivant, il n'aurait pas eu d'autre choix que de prendre mon offrande. Donc je me débrouille à ce que la prochaine fois, ce soit la seule offrande. Mais il n'y a plus d'offrande. Problème réglé. L'échec est douloureux. Mais ça va vous transformer en quelqu'un de terrible. Si vous ne savez pas vous remettre en cause et faire les changements nécessaires pour que ça ne se reproduise plus. David a compris, il s'est assis. Quelqu'un lui a dit, mais est-ce que tu as regardé ce que la parole de Dieu dit sur comment on transporte l'arche? Il a dit, ah, je n'avais pas pensé. Ben, appelons les prêtres. Est-ce qu'il y a un passage qui dit comment on doit transporter l'arche? Parce qu'apparemment, on n'a pas bien fait quelque chose. C'est comme ça qu'on doit réagir face à l'échec. Et pas prendre des décisions qui nous punissent nous-mêmes. Parce que le pire, c'est que ces décisions-là nous détruisent nous-mêmes. Quand tu décides d'abandonner des études parce que tu as coulé un cours, tu t'auto-punis. Non seulement tu as raté ton cours, mais en plus tu abandonnes tes études. Quand tu te retrouves marié à quelqu'un que tu n'aimes pas, parce que la personne que tu aimes a épousé quelqu'un d'autre, tu t'auto-punis. Donc non seulement tu n'as pas la personne que tu aimes, en plus il faut supporter quelqu'un que tu n'aimes pas. Hey. Tu t'auto-punis. Toutes les décisions qu'on prend quand on est en colère, 99% se retrouvent contre nous-mêmes. Tu tues quelqu'un, tu vas en prison. Il est mort, mais toi, tu es en prison. Tu n'es pas plus avancé. Non, apprenons. Qu'est-ce que j'ai fait de croche? À quelque chose qui ne marche pas là. La deuxième place, c'est le rejet. Ça, c'est une expérience douloureuse. Si vous avez une expérience dans la vie douloureuse, ça fait de vous rejeter là. Quand on vous montre que toi, on ne veut pas de toi ici. Quand vous aimez quelqu'un et puis la personne vous montre clairement que il y a une phrase que les gens me disent, je t'aime comme une sœur. Je t'aime comme un frère. Tu aimes quelqu'un et puis elle vient te dire, t'es le frère que j'ai jamais eu. Je m'en fiche d'être ton frère. Je ne cherche pas une sœur, moi. J'en ai déjà. Vous descendez des... Vous pensez être en relation, en train de construire quelque chose. La personne vous dit, j'ai quelque chose d'important à te dire. Là, votre cœur bat déjà. Ah, c'est le grand jour. Non, je voulais te dire vraiment, je te remercie pour tout le support que tu m'as apporté, vraiment. Vraiment, je tenais à te dire, vraiment, tu es la sœur que j'ai jamais eue. La quoi? Vraiment, je t'aime bien, frère. Je te dis, à chaque fois que je t'appelle, tu m'écoutes, vraiment. Ah, vraiment, je t'aime comme un frère. What? J'ai fait tout ça pour que tu m'aimes comme un frère. J'ai déjà des sœurs. C'est douloureux. Et ça reste là. Quand vous vous investissez de votre temps, de votre énergie, vous donnez le meilleur de vous-même et que la personne que vous aimez vous montre clairement que quel que soit ce que tu vas faire, je ne t'aime pas. Cette histoire, c'est l'histoire de Pénina, la rivale de Anne, la mère du prophète Samuel. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Joram, fils d'Éléhu, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tuf, et il était éphraïmite. Il avait deux femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. À ce moment de l'histoire, si vous connaissez un peu la culture juive, automatiquement, la première qualité d'une femme mariée, c'était la fécondité. Une femme mariée qui ne faisait pas d'enfant était considérée comme maudite par Dieu, comme pécheresse. Donc la logique, c'est que si Pénina a des enfants et que Anne n'en a pas, Pénina doit être la femme chérie et quelle qui doit être honorée lors des cérémonies. Mais quand on lit 1 Samuel 1 au verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, on parle du sacrifice annuel, donc c'est quelque chose de solennel. Tout Israël venait à Jérusalem pour faire son sacrifice, pas à Jérusalem, là où se trouvait l'arche à l'époque, pour faire son sacrifice. Le jour où Elkana, le mari, offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Vous imaginez, vous êtes à une cérémonie, vous êtes là avec tous vos enfants, l'autre femme n'a pas d'enfant, votre mari arrive, il a fini de faire son sacrifice, il l'a découpé en morceaux. Un, il vous donne la même portion que vos enfants. Deux, il donne à votre rival pas la même portion que vous, ce qui déjà aurait pu vous vexer parce que vous avez des enfants, mais il lui donne le double. Je ne sais pas si on peut être plus humilié que ça. Je ne sais pas si, en tant que femme en rivalité, on peut te dire clairement qu'on ne t'aime pas plus clairement que ça. Est-ce qu'on peut te montrer que tes enfants n'ont pas d'importance plus clairement que ça? Est-ce qu'on peut te montrer que le fait que tu aies des enfants n'a pas d'importance plus clairement que ça? Non. Ce n'est pas quelque chose qu'Elkana faisait tous les jours, c'était un sacrifice annuel, fondamental dans la vie de tout juif. Et à cette occasion annuelle, chaque année, Elkana rappelait à Pénina qu'il ne l'aimait pas. Vous êtes Pénina. Vous allez au sacrifice annuel. Chaque année, votre mari prend une portion, il vous donne. Il prend le double de la portion, il donne à Anne. Vous vivez ça chaque année. Et qu'est-ce que Pénina a fait? C'est sur Anne qu'elle a déversé son amertume. Elle s'est mise à tourmenter Anne, à rendre la vie de Anne impossible. 1 Samuel, verset 1, chapitre 7. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Si vous ne faites pas attention, le rejet va vous rendre aigrie, amère et méchante. Méchant. Ce que Pénina a fait en psychologie, on appelle ça le déplacement. Le déplacement, c'est quoi? J'ai un problème avec le pasteur Bruno. Mais le pasteur Bruno, c'est mon pasteur. Donc, au lieu de m'en prendre au pasteur Bruno, je vais m'en prendre à Denis. Parce que Denis, il n'est pas le pasteur de l'église, donc si j'ai une chicane avec lui, c'est moins grave. Donc, je vais commencer à critiquer tout ce que Denis fait, mais en fait, mon problème, il n'est pas avec Denis. Je ne suis pas d'accord avec ce que le pasteur Bruno fait. C'est ça, le déplacement. Et le déplacement, c'est quelque chose que l'on fait souvent sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'au lieu de s'en prendre à la personne qui est à l'origine du problème, on s'en prend à quelqu'un qu'on considère plus faible ou plus vulnérable. Vous voyez ça souvent avec les hommes quand ils ont des problèmes au travail. Ce qu'ils vont faire, c'est que quand ils vont rentrer chez eux, s'il y a une tasse qui traîne, une tasse, la maison est propre, hein, mais il y a une tasse. C'est pas possible dans cette maison. C'est tout en désordre, tous les jours. C'est un abri de cochon. Hey, c'est juste une tasse. Moi, j'ai connu des femmes, la vie de leur enfant est devenue un enfer le jour où le père est parti. Quand le père l'a abandonné, hey, si les enfants pouvaient poursuivre le père pour dire pardon, il faut revenir. Parce que les enfants, ils sont petits, tu peux les taper, tu peux les insulter, tu peux faire tout ce que tu veux, tu sais que ils ne vont rien te faire. Et il y a des familles où les enfants payent les frustrations des parents. Frustrations de couple, frustrations professionnelles. Parce qu'ils sont vulnérables, ils sont fragiles, on sait qu'ils ne peuvent pas fuir, ils ne peuvent pas se débrouiller. Et beaucoup d'enfants sont des punching balls. Et beaucoup de femmes sont des punching balls. Et beaucoup de maris sont des punching balls. L'un des premiers signes qui va vous montrer que votre enfant a un problème à l'école, c'est s'il commence à s'en plaindre du jour au lendemain au plus petit à la maison. S'il était un grand frère gentil et puis tout à coup il se met à taper, il se met à insulter, appelez votre enfant. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Parce que l'un des signes que quelqu'un ne va pas bien, c'est qu'il devient agressif envers les plus vulnérables. Vous avez ça même avec les chefs d'entreprise. Quand l'entreprise ne va pas bien, ou quand lui il est cogné par plus grand, sa vengeance, c'est sur ses employés. Donc le fait de vivre des rejets, c'est une expérience qui peut faire ressortir le pire de vous. Il y a une autre femme dans la Bible qui a vécu la même chose. C'est Léa, la première femme de Jacob. On va remonter à la manière dont Léa a été mariée. Nous sommes dans Genèse, chapitre 29, verset 18. Jacob aimait Rachel. Il dit donc à Laban, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Genèse 29, verset 21. Puis Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car je suis allé au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. » Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa, et l'amena à Jacob qui s'unit à elle. À partir du moment où il s'est uni à elle, le mariage devient irréversible. Donc, sûrement la fête, il a dû être bien alcoolisé. Mais à partir du moment où il avait connu Léa, le mariage devenait irréversible. Il ne pouvait plus ramener Léa chez son père. Ce n'était plus possible. Nous sommes au verset 25 du même chapitre. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» C'est comme ça que Léa s'est mariée. Jacob ne l'a jamais aimée. Il ne s'en est jamais caché. Il n'a jamais fait semblant. Il ne l'a jamais aimée. Elle a été comme imposée à Jacob. Donc vous imaginez, vous commencez votre mariage comme ça, votre mari se lève le lendemain, « C'est toi ?» Le lendemain, la nuit des noces au réveil. Quoi, c'est toi? Non, ça ne marche pas de même, là. Toi? Je pense que le réveil a dû être un peu douloureux pour Léa. Donc, Léa, elle s'est dit quoi? Mais je vais changer les choses. Les choses vont changer. Et elle avait la grâce d'avoir Dieu avec elle. Genèse 29, nous sommes au verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il lui permit d'avoir des enfants tandis que Rachel était stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit, L'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils et dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Ça veut dire que Ruben n'a rien réglé. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Donc, la naissance de Ruben n'a rien changé. Nous continuons en verset 34. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Cette fois-ci, les deux autres fois n'ont pas marché. Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi car je lui ai donné trois fils. C'est pourquoi elle appela Lévi. On continue. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, cette fois, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Je pense que la troisième fois, c'est rentré. Que même si j'ai 50 fils, 60, même si je reconstitue à moi seul le peuple d'Israël, il ne m'aime pas. Vous ne pouvez pas forcer les gens à vous aimer. Vous savez pourquoi le rejet nous détruit? Ça nous détruit parce qu'on est là devant des portes qu'on nous a fermées au nez. Boum! Mais tu restes là. Seigneur, je veux qu'on m'ouvre la porte. Elle est fermée. On te l'a fermée au nez pour bien te montrer que toi, on ne veut pas de toi. Mais tu pleurniches. Dans la prière, Seigneur, je te prie, j'ouvre cette porte au nom de Jésus. Quelle porte? On t'a fermé la porte. Accepte qu'on t'a fermé la porte. Accepte qu'on ne t'aime pas. Point. Et fais comme Léa. Va célébrer l'Éternel. Cherche-toi d'autres amis, cherche-toi d'autres horizons, crée-toi d'autres relations. Le rejet nous détruit parce qu'on ne peut, on ne sait pas passer à autre chose. Ton père ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Il t'a montré ça de toutes les manières possibles et imaginables. Quand c'était le temps de te mettre à l'école, il n'avait jamais l'argent. Chaque rentrée pour tes fournitures, il n'avait jamais d'argent. Tu as été le seul qui a commencé à travailler très jeune pour payer ses propres études. Tu veux qu'on t'explique ça comment? Ta mère ne t'aime pas. À chaque fois qu'il fallait refaire les enfants, toi, tu héritais toujours des habits des autres. Les autres avaient les nouveaux habits. Mais toi, tu disais toujours, prends les habits de ton frère, là. Oui, oui, prends ça, prends ça. Tu veux qu'on t'explique ça? Comment? Et beaucoup d'entre vous, vous détruisez. Mon père ne m'aime pas. Ma mère ne m'aime pas. Mes frères ne m'aiment pas. Mon patron ne m'aime pas. Mon pasteur ne m'aime pas. Hey! À un moment, il faut faire comme Léa. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai donné le meilleur de moi-même. Ça ne marche pas. Je passe à autre chose. Je ne vais pas devenir une Pénina méchante, aigrie, qui s'en prend aux gens qui ne lui ont rien fait parce que j'ai été rejetée par Elkana. Même Jésus nous a donné une manière de gérer le rejet. Luc 10. Verset 10. Mais dans toute ville où vous entrerez et on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Même la poussière de la ville, nous secouons ça avant de sortir. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ça veut dire quoi? J'ai compris. Hein? Maintenant, mon cher, ma chère, je vais dans autre chose. Mais nous là, on amène la poussière là partout. On amène ça au travail, on amène ça dans notre couple, on amène ça dans notre vie de famille. Ton père te maltraitait, tu maltraites tes enfants. Ton premier amour est abandonné, tu maltraites ton mari. On amène la poussière du rejet là partout. Tu es invivable dans ton entreprise. Quand tu ne travailles pas, les gens sont soulagés. Et ils ne viennent pas aujourd'hui. Parce que tu es tellement désagréable. Pourquoi? À cause de toutes les blessures que tu as accumulées. Tu as voulu t'attacher aux gens, ils t'ont rejeté. Tu as voulu te faire ami, on t'a chassé. Donc maintenant tu deviens... Vous avez vu le porc épique? Vous connaissez le porc épique, c'est un animal qui a plein d'épines Donc, en fait, quand il est attaqué, il se roule en boule. Et comme il n'a que des épines, tu ne sais pas où l'attraper. Certains d'entre nous sont des porcs épics vivants, humains, porcs épics. On ne sait pas où t'attraper. Tout te blesse, tout te frustre, tout t'énerve. On te fait un compliment. Pourquoi tu me dis ça? D'habitude, je ne suis pas bien habillée. Oh, tu es bien habillée aujourd'hui. Hein? Ah, donc, d'habitude, je ne suis pas bien habillée. C'est ce que tu veux dire. OK. D'accord. J'embêtais une sœur une fois. Elle arrive, elle est fâchée. Je me dis, qu'est-ce que tu as? Elle dit, non, la personne qui m'a fêté mon anniversaire, tant je suis impliquée à l'église. J'ai dit, mais toi et moi, on est amis Facebook. J'ai pas vu la notification de ton anniversaire. Elle me dit, oui, j'ai caché ma date d'anniversaire. Bon, maintenant, tu as caché ta date d'anniversaire. Comment nous, on fait pour imaginer que c'est ton anniversaire? Et c'est là où elle se rend compte qu'en fait, elle a, sur Facebook, elle a bloqué sa date. Donc, on ne sait pas quand c'est son anniversaire. Donc, personne n'avait l'information que c'était sa fête. Mais elle est fâchée, hein? Vraiment énervée. Et beaucoup d'entre nous, on est comme ça. On transporte ça et des gens qui ne nous ont rien fait payent. Pour des gens qui sont partis de nos vies depuis. Ton oncle est mort et enterré. Ses os même n'existent plus. Mais tu es toujours avec la phrase qu'il t'avait dite quand tu avais 8 ans que tu ne feras rien de ta vie. Cette phrase-là, tu l'amènes partout. Dès que quelqu'un veut te faire une remarque pour te conseiller, et... il va se demander qu'est-ce qui m'a pris aujourd'hui et pourquoi je me suis même réveillée. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit une parole qui t'a blessée et tu n'as jamais prié. Tu n'as jamais dit à Dieu, Seigneur, guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Je veux être guérie. Je ne veux plus que ça me fasse mal. Je veux accepter les choses et passer à autre chose. Moi, j'étais une fois très étonnée et j'étais vraiment choquée par un témoignage d'une vieille dame. Elle était dans un équivalent de CHSLD, mais pas ici au Québec. Elle était dans une autre ville et elle avait 78 ans, 75 ans à l'époque. Et vous savez qu'il y a des gens qui visitent, des bénévoles, qui vont voir des personnes qui sont toutes seules. Et elle était très amère, très écrite, très méchante. Et puis, les gens étaient vraiment comme, mais cette dame-là, qu'est-ce qu'elle a? Elle est bizarre. Et la dame, ce qu'elle leur dit, elle parle, et puis elle dit, vous savez, moi, quand j'avais 5 ans, mon père m'a arraché la poupée que j'aimais pour donner ça à ma petite sœur. Hein? Elle a 5 ans. Au moment de l'histoire, elle a 75 ans passés. Mais elle est toujours aigrie. Parce qu'à l'âge de 5 ans, son père a arraché sa poupée préférée pour la donner à sa petite sœur. Ça, c'est typique du rejet. Si vous ne le réglez pas, si vous ne pardonnez pas, si vous ne guérissez pas, ça va être comme la poussière qui s'attache sous les pieds. Ça va vous suivre partout. Et vous allez être incapable de construire des relations saines. Vous allez être incapable d'entendre une remarque. Vous allez être incapable de recevoir un conseil parce que vos blessures vont vous amener à interpréter de travers tout ce qu'on va vous dire. Un leader insécure est un leader dangereux. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas le conseiller. Toutes les propositions que vous allez faire, il va les interpréter comme des accusations d'incompétence. Quand il va vous répondre, ce n'est pas le leader qui va vous répondre, c'est l'enfant blessé et insécure en lui. C'est pour ça que tout leader doit savoir que la limite de son leadership, c'est son caractère, et son histoire, et son cœur. Parce que si tu es blessé, vous savez, je disais à une sœur, il y aura toujours quelque chose à te reprocher. À partir du moment où tu te tiens ici, il y aura toujours quelque chose à te reprocher. Je vais descendre d'ici, j'aurai dit une phrase qui n'aura pas plu à quelqu'un. J'aurai eu une attitude qui n'aura pas plu à quelqu'un. J'aurai raconté quelque chose qui n'aura pas plu à quelqu'un. Ça fait partie de la job. Ça fait partie de la job. Si vous n'aimez pas les critiques, ne vous mettez pas devant les gens. That is. Réglé. Si vous pensez que tout le monde va vous célébrer, ne vous mettez pas devant les gens. Un rabbin juif a dit que les seules personnes qu'on ne critique pas, c'est celles qui sont dans une tombe. Et même là, comme on dit, hein, l'oncle qui vous a blessé, qui est mort depuis 20 ans, on pense encore à lui. Ça fait partie de la job. Et si vous avez décidé d'être un leader, vous avez intérêt à encaisser ça et à prendre ça. Moi, la première fois que j'ai dirigé un truc d'envergure, j'avais un leader dans mon église que j'aimais beaucoup. Ça, je suis arrivée dans mon église à l'âge de 16 ans. J'ai grandi en 91. C'est pour vous dire que ça fait longtemps que je suis là. Donc, cet homme, je l'admirais tellement, vous savez. C'était pour moi, c'était une icône de l'évangile. Il fait partie des gens qui s'étaient battus pendant le réveil. Et là, j'arrive, je monte un méga projet. Le président de la République l'approuve, il sort l'argent. Et comme c'est moi qui ai monté le projet, je me retrouve responsable du projet. Il m'appelle chez lui. Je me dis qu'il va me donner des conseils parce que c'était mon premier gros projet. Il m'appelle, il me fait asseoir. Il me dit, qu'est-ce qui t'a pris d'accepter ce poste? Ok, d'accord. Tu n'as ni les compétences spirituelles, ni les compétences physiques, ni les compétences psychologiques pour occuper cette fonction. Cette fonction, c'est ma fonction. Je suis descendue. J'ai fait le projet parce qu'au départ, j'ai démissionné. Parce que je me suis dit, il a raison. C'est quelqu'un qui m'a vu évoluer. Sur moi, il sait que je ne suis pas compétente. Mais j'ai senti le Saint-Esprit tellement énervé en moi. Et c'est la première fois de ma vie que le Saint-Esprit était énervé après moi comme ça. Et Dieu m'a dit, tu sais quoi? Aujourd'hui, tu vas choisir qui tu sers. Est-ce que tu le sers lui et tu as besoin de ton approbation ou tu me sers moi qui t'ai donné l'inspiration du projet? Aujourd'hui, tu vas choisir. Et certains d'entre vous, vous devez choisir qui vous servez. Est-ce que c'est les hommes? Et vous, votre vie dépend de leur amour et de leur approbation ou est-ce que c'est Dieu? Vous devez choisir. J'ai mené ce projet. Pendant un an et demi, cet homme qui était un leader de mon église ne m'a pas adressé la parole. Je me souviens le 31 décembre, on faisait le 31 décembre à l'église. Il embrasse tout le monde. Quand il arrive chez moi, il fait un grand tour. Tous les gens qui s'entendaient avec lui ont démissionné du projet. Vous voulez servir Dieu? Il ne voulait pas vivre le rejet. On n'a pas cogné à la bonne porte. Quel que soit ce que vous allez faire dans l'église, même balayer, on va vous critiquer. Mais il n'y a personne qui veut balayer. Hein. On va critiquer votre manière de balayer. Si vous, dans votre cœur, vous savez que vous êtes appelé à de grandes choses, attendez-vous à de grands rejets. Il y a des gens dont le ministère est d'insulter Josh Meyer tous les jours. Dêu les a appelés. Ils ne prêchent pas l'évangile. Hein. Quand ils se mettent sur une estrade, c'est pour critiquer Josh Meyer pendant 50 minutes. J'admire leur courage. C'est leur appel sur terre. C'est-à-dire que Josh Meyer, elle sert Dieu. Elle fait Hand of Hope. Elle aide des milliers de gens. Eux, leur appel, c'est de la critiquer. Il y a des gens dont le ministère est de critiquer Bill Johnson. Leur ministère dans la vie. Ce n'est pas de prêcher l'évangile, c'est d'insulter Bethel matin, midi et soir. Mais ils sont chrétiens, ils ont la Bible. Mais quand ils se mettent sur une estrade, c'est pour dire « Bill Johnson, c'est un sorcier, c'est un maçon, c'est un illuminati. » Mais des gens sont guéris à Bethel, des gens sont restaurés à Bethel, les gens étaient remis sur pied à Bethel. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens dans le ministère et d'insulter Bill Johnson et Bethel. Donc si vous ne savez pas dealer avec le rejet, si vous ne savez pas prendre les portes qui claquent au nez, vous allez vivre des sérieux problèmes. Ça fait partie de la vie sur terre. Les gens ne vont pas vous aimer. Parfois comme Pénina pour des choses qui ne vous concernent pas. Anne n'était pas concernée par le problème entre Elkana et Pénina, mais c'est elle qui encaissait. Et parfois nous encaissons pour des choses qui ne nous concernent pas et sur lesquelles on n'a pas d'influence. Quand vous avez affaire à une Pénina, vous allez vous fatiguer en vain à faire en sorte qu'elle vous aime. Parce que vous ne pouvez pas régler son problème qui est le rejet d'Elkana. Donc à des moments, il faut faire comme Léa. Bon Seigneur, quand même là, je ne vais pas faire 50 enfants pour que le gars m'aime. Elle a jeté l'éponge au bout du quatrième. Elle dit non, pardon, cette fois-ci, moi je loue Dieu. Jacob et son affaire. Et vous savez qui est enterré en terre promise à côté de Jacob? C'est Léa la mal-aimée. Rachel est morte en chemin, elle n'est pas arrivée. Celle qui jusqu'aujourd'hui, les Juifs vont sur sa tombe en Israël, c'est Léa la mal-aimée. Tous les jours, nous avons le choix. Parce que nous tous, on va vivre de l'échec et du rejet. Ça là. Les gens qui vont venir vous dire qu'accepter Jésus et puis votre vie sera belle, il serait mieux d'aller relire ce que Jésus lui-même a dit. Il a parlé de sentir étroit, resserré. Donc, le sugar coated gospel, là, le gospel empli de sucre, là, oubliez ça. Nous allons tous vivre ça. On va vous rejeter. Vous allez échouer. Vous allez faire des prières que Dieu ne va pas exaucer. Comme avait dit quelqu'un, votre ange va aller en congé sans vous prévenir. Nous avons tous le choix entre être un Caïn qui détruit sa vie ou être un David qui réfléchit sur ses échecs. On a tous le choix entre être une Pénina qui détruit sa vie par l'aigreur et l'amertume ou être une Léa qui décide de juste laisser tomber cette bataille qu'on ne peut jamais remporter. On ne peut pas remporter la bataille de l'amour de quelqu'un. Non. On ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer. L'amour artificiel, ça finit toujours par casser. Et vous allez comprendre que vraiment la personne ne vous aime pas. Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est que si vous vivez des échecs et du rejet, ce n'est pas la fin. Ça peut être le début de quelque chose. Une porte fermée. Comme a dit quelqu'un, si la porte est fermée, c'est la fenêtre. Et je nous invite vraiment ce matin à être plus relax. Quand quelqu'un vous rejette, quand quelqu'un ne vous aime pas, arrêtez de vous prendre la tête. Dites simplement, tu ne sais pas ce que tu rates. Si ce n'est pas quelle personne merveilleuse je suis, j'aurais prié pour toi, je t'aurais conseillé, mais tu ne veux pas, tu ne veux pas. Tant pis. Que Dieu nous aide. Qu'il soit notre force. Qu'il soit notre abri et notre bouclier. Père, tu vois tous les échecs et tous les rejets que j'ai connus. Tu sais à quel point ils m'ont fait mal. Je sais que tu es au contrôle de ma vie. Peu importe les tempêtes que je traverse, tu tiens ma main quand les choses deviennent difficiles. Et je sais que je peux en tout temps compter sur ton amour et ton appui. Mais ce matin, je veux aller de gloire en gloire avec toi, en étant un peu plus chaque jour à ton image et à ta ressemblance. Aide-moi comme David à tirer parti de mes échecs et à faire en sorte que ces échecs fassent de moi un meilleur chrétien, un meilleur élève, un meilleur employé, un meilleur leader, un meilleur parent, un meilleur conjoint. Aide-moi comme Léa à ne pas m'épuiser, à vouloir être acceptée à tout prix, lorsqu'on m'a clairement fait comprendre que l'on ne veut pas de moi. Aide-moi à trouver en toi et en ton amour inconditionnel une source de paix et d'acceptation. Aide-moi à secouer la poussière de mes chaussures et à laisser le passé dans le passé pour que mes blessures d'hier n'empoisonnent pas mes relations d'aujourd'hui. Accorde-moi la faveur d'être chaque jour un peu plus comme Jésus par l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.
Emmanuel, je crois qu'on a été quelque peu challengé par ce message. L'échec et le rejet font partie de la vie et il nous appartient de nous arrêter et de prendre les mesures qu'il faut. Sinon, cela peut jouer en notre défaveur si nous reprenons pas. Et l'exemple de David est un exemple intéressant parce que lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, David est quasiment le seul qui ait compris ce qu'est la grâce de Dieu. David vivait sous la grâce. Et alors qu'il s'est assis, qu'il a réfléchi sur la situation, il a ajusté le tir. Et par la suite, on voit que la possession du coffre a bien été. Et je crois que nous aussi, nous sommes rendus là à nous arrêter, comprendre où nous en sommes et ajuster le tir. Et dans toutes ces démarches, nous avons aussi besoin de savoir que l'amour de Dieu est toujours pour nous. Il va être dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous avons en nous déjà l'amour de Dieu. Peut-être que nous n'en sommes pas conscients, mais il a déjà été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et lorsqu'on va lire dans Romains 8, dans Romains 8, au verset 35, il nous a dit ceci: qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? Est-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? J'ajouterai l'échec, le rejet. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, les puissances, ni ce qui est en haut ou en bas, ni aucune autre créature, rien, que ce soit l'échec, le rejet, ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et lorsque nous réalisons que cet amour de Dieu est pour nous, on voit différemment les choses. Okay. Même dans les détresses, même dans les échecs, Dieu peut exprimer et manifester cet amour-là si on choisit de s'accorder avec lui. Merci Emmanuel pour ce message qui nous rappelle ces choses. Amen. Alors, on est quasiment à la fin. J'aimerais faire encore deux petites annonces avant qu'on ne termine ce temps. La première